Ce matin, on va commencer notre culte. Que Dieu soit béni. Ça a démarré là-haut, à la technique. Merci Eric Jacques. On peut applaudir Eric Jacques pour tout ce qu'il fait. On est content du travail qu'il fait pour... Nous pouvons aller écouter encore tout ça sur Internet. Dieu soit béni. Je vous invite à vous lever, à lire Jean chapitre 11, verset 25 ce matin. Nicolas n'est pas avec nous, il est... à Paris, en train de prêcher dans une église, je ne sais même pas laquelle. Et hier soir, j'ai parlé avec le pasteur chez qui il est au téléphone. Et, j'aimerais bien vous connaître. Je dis, mais moi aussi, pas de problème. Donc, je pense qu'on va se rencontrer. Nicolas va faire un peu de pub pour nous. Voilà, Jean 11, 25, vous y êtes? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen.
Dieu soit béni.
J'ai vu en partant dans le rétroviseur que la voiture de Thierry, Natalia, Michael et Mateusz, ils sont là. C'est bien, gloire à Dieu. On est content que Dieu les a protégés sur le voyage. Ils sont rentrés de Pologne. On aura sûrement des bons petits chocolats. J'espère, mais sinon, peut-être autre chose. On verra. Faut pas dire, parce qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent sur Internet. Faut pas dire. Oh, mes frères et sœurs, c'est bien d'être libre dans le Seigneur. Amen. C'est bien. Est-ce que vous avez une montre sur vous? C'est pas que je prêchais longtemps, mais j'aimerais que vous regardiez votre montre pendant que je vais vous parler. Pendant à peu près 15 secondes, oui, ça ne va pas être très long. Et ce que je vais vous dire pendant les 15 secondes qui vont arriver, ce que je vais vous dire pendant ces 15 secondes, ça va arriver pendant ces 15 secondes. Vous regardez votre montre? Sur Internet aussi, vous regardez? Alors voilà, écoutez bien. 40 personnes sont en train de mourir en ce moment. 30 personnes sont en train de naître sur Terre pendant ces 15 secondes. Dieu dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. 40 personnes toutes les 15 secondes, 40 personnes qui passent dans l'au-delà toutes les 15 secondes sur la terre. Et le monde vit comme si ça ne le concernait pas. C'est fou, hein? Pourtant, on est tous concernés parce qu'un jour ou l'autre, c'est nous, hein? La pendule du salon... Elle va arriver à l'heure de notre mort. Elle est écrite, cette mort. Dieu il sait quand c'est qu'il va nous reprendre. Hein. Il n'a pas de programme n'importe comment. Il sait très bien. Certains d'entre vous, ça sera suite à une longue maladie. Je ne vous le souhaite pas. D'autres, ça va être d'un coup, un accident d'avion, un accident de voiture. D'autres, ça va être en dormant. La nuit, ils vont se réveiller. Ah non, je ne suis plus sur la terre. Beaucoup, alors il y aura des crises cardiaques, il y aura des anévrismes du cerveau, il y aura la vieillesse tout simplement. Un jour on oublie de respirer, puis voilà, on passe de l'autre côté. Puis quelque part sur la terre, en ce moment, des fois je me promène comme ça dans les forêts, je pense à ça. En ce moment sur la terre, l'arbre qui va servir à fabriquer ton cercueil, il est là, il existe. Il existe. Ça fait drôle, hein? Ça, c'est drôle, il est où l'arbre qui va servir à faire les planches de mon cercueil? Frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Il faut se poser les questions, il faut se poser les bonnes questions, et pas chercher une doctrine là-dessus, mais voir un peu ce que Jésus dit, parce que Jésus n'en parle pas beaucoup, mais il en parle quand même, je crois. Les gens sont toujours très étonnés quand ils s'aperçoivent que dans la Bible, il est plus question de l'argent que de la mort, de la vie, de ce qui va se passer après. Mais il y a quand même certains indices, et ce matin, je ne vais pas vous annoncer une doctrine là-dessus, mais une réflexion. Johnny Hallyday, en vieillissant, chante « Que laisserai-je derrière moi quand je serai parti à Kekuko ?» Pas mal de disques, pas mal de navets cinématographiques, voilà, c'est bien. Ça va faire drôle, hein, le jour où notre Jojo national va mourir. Ça, c'est une question, il y en a une autre. Que trouverai-je devant moi une fois que je serai sorti de mon corps? Ah! Est-ce que je vais voir dans le sens que je vois maintenant, puisque je n'aurai plus de corps? Est-ce que je vois? Est-ce que je peux voir sans yeux? Est-ce que je peux entendre sans oreille? Est-ce que, comment ça se passe? Comment c'est de l'autre côté? Hein? Jésus nous enseigne que ceux qui croient en lui ne mourront pas. Alors si on regarde, écoutez, moi j'ai vu, hein, j'ai regardé, j'ai vu. Vous prenez deux personnes, hein, vous prenez un croyant, puis vous prenez un qui n'est pas croyant, les deux meurent. Ben, on trouve que des cadavres, quoi, hein, je veux dire. La vie est partie, que la personne soit croyante ou pas, c'est la même chose, il reste un corps vide, inerte, là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, là, Jésus? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alors, si tu crois en moi, tu vivras même si tu meurs, donc il admet quand même, hein, même si tu meurs, une possibilité, mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc ce même si tu meurs, ne mourra jamais, c'est... Nicolas dirait, ah, vous les blancs, vous parlez toujours de les mots. Je dis, oui, mais les mots, c'est important, les mots. Mourir, pour nous, humains chrétiens, enfants de Dieu, c'est ne plus vivre avec notre corps. Je dis bien, c'est ne plus vivre avec notre corps. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas. Ça, c'est vrai. Hein. Mais pour les gens qui nous voient mourir, qui voient mourir un chrétien, bon, on ne voit pas la différence. Le cadavre du croyant est là, le cadavre du non-croyant, il est là aussi, et puis bon, ils sont pareils. Même s'ils meurent, cette expression même si l'expérience semble avoir été celle de la mort, quand on l'observe dans notre dimension, eh bien, celui qui croit en moi vivra, ne mourra pas. Jamais. Parce que dans l'autre dimension, le croyant ne cesse pas de vivre. De vivre. Par contre, l'incroyant, il meurt. Est-ce que c'est-à-dire que l'incroyant n'a plus d'existence? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus conscience de rien? Non, il continue d'être mort. L'incroyant est mort et il ne le sait pas. Nous, nous savons parce que nous avons goûté à la vie. Nous savons ce que c'est la différence entre être une personne qui existe ou une personne qui vit. Les incroyants ne savent pas. On ne peut pas leur expliquer. On ne peut pas leur dire. C'est comme par exemple pour connaître le goût d'une orange, il faut goûter l'orange. Tant qu'on n'a pas goûté l'orange, on peut entendre parler du goût, mais on ne sait pas ce que c'est véritablement le goût de l'orange. Et bien, c'est la même chose tant que tu n'as pas goûté à la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas goûté à Dieu, Jésus est la vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que ça a coupé là-bas? C'est bon. On a un petit problème d'électricité, ça siffle un peu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nous, nous autres, nous savons ce que c'est la vie. Est-ce à dire que l'incroyant n'a pas d'existence? Absolument pas. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors, non, je vous répète encore, je redis, ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. On va prendre depuis le début et vous allez écouter, vous n'allez pas vous laisser distraire et partir avec ce que je dis dans d'autres pensées, d'autres machins, puis après vous n'arrivez plus à suivre ce que j'ai dit. Hein. Donc vous écoutez ce que je dis, je n'ai pas pour longtemps, mais écoutez bien. Jésus est Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci Stéphane, ça fait un peu de lumière, c'est bien. Merci. Il a dit, je suis la vie. Il est la vie, il n'est pas vivant, il est la vie. Celui qui croit en moi, il sort de la limitation de son corps pour entrer dans la vie en Jésus sans limitation. Bon, écoutez, on va parler comme des gens du 21e siècle. Déjà de son temps, Jésus, il avait amorcé la chose en disant quelque chose qui était révolutionnaire. Il a dit qu'il était la lumière. Aujourd'hui, nous savons que ce que c'est que la lumière, c'est l'énergie. Hein. Si vous demandez à un physicien quantique qu'est-ce qui a créé le monde, eh bien, il vous répondra l'énergie. Alors, si vous lui demandez une définition de l'énergie, il va vous dire, eh ben, l'énergie ne peut être créée ni détruite, elle a toujours été, tout ce qui existe a toujours existé, et elle existera toujours, ça prend une autre forme, ça, mais ça existe toujours, c'est de l'énergie, ça se transforme. Maintenant, vous demandez la même chose à un théologien, qu'est-ce qu'il va vous dire? Si vous lui posez la question, qui est-ce qui a créé l'univers? Il va vous dire, c'est Dieu. Et si vous demandez une définition de Dieu, il va vous dire, il a toujours existé, il a toujours été, il ne peut être créé, il ne peut être détruit, tout ce qui est a toujours été, c'est ce que la Bible nous dit, hein. Il prend des formes, il transcende les formes, il transforme, voilà. Vous voyez, c'est la même description, c'est simplement la terminologie, c'est simplement les mots qui changent, le nom qui change. Et pour nous qui lisons la Bible, qui ne sommes pas forcément des théologiens, mais nous lisons la Bible, nous savons, d'après Jean chapitre 1, que Dieu est lumière. Jésus est la lumière. Puis ensuite, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit ça à qui? À ses disciples, aux siens. Nous sommes la lumière. Quand un enfant de Dieu quitte son corps pour rejoindre, sans aucune limitation, la lumière, il rejoint Dieu, il retourne de là où il a été envoyé. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. Hein? Le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Maintenant, quitter notre corps, c'est quoi? C'est quitter la matière. Quand on quitte la matière elle-même n'est pas, n'a pas un esprit. Alors, vous la voyez pourrir, voilà. Mais elle se transforme, elle devient de la terre, et puis ensuite cette terre, elle nourrira des vaches qui vont faire du lait, qui vont faire de la viande, qui vont nourrir des hommes, qui vont faire pousser des muscles de la chair humaine ou que sais-je. Donc, ça, vous voyez, ça se transforme. Vous voyez, vous rappelez ce que je vous disais? Donc, c'est de l'énergie, votre corps, qui vibre très bas, une basse fréquence par rapport à la lumière, par rapport à la vie. Vous êtes un champ d'énergie, de lumière, de force, de puissance qui évolue, qui bouge, qui se manifeste dans un autre champ d'énergie beaucoup plus grand. Et en fait, on est tous reliés. C'est pourquoi Jésus dit que nous sommes un. Si vous pouviez admirer votre corps sous un microscope hyper puissant, vous verriez qu'il n'y a pas autre chose que de l'énergie. C'est de l'énergie, ça bouge, c'est des atomes, des neutrons, des machins, tout ça, ça bouge, c'est vivant, ça gesticule dans tous les sens, mais d'une façon très ordonnée. Vous verriez que vous êtes formé des mêmes éléments que les éléments qui forment la terre, d'où vous avez été tiré. Dieu a créé les cieux et la terre, et de la terre, il nous a tirés. Nous sommes de la vie, issus de Dieu, de la vie, dans de la matière, et quand nous quitterons la matière, notre corps, quand nous mourrons, nous ne mourrons pas. On se transforme. On sort hors de nos limites. Nous entrons dans le champ infini de la lumière, infini de l'énergie, infini de Dieu, de la personne de Dieu, sans aucune limite. À ce moment-là, Jésus dit que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ça fera. Et là, on dit, mais oui, ça y est, ça me revient, je me rappelle. Je veux dire, ouh là là là, mon Dieu, c'est pas possible parce que j'étais limité. On croit qu'on est super intelligent. Hein? Mais Coluche, il avait raison, il disait, on juge notre propre intelligence par notre propre intelligence. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de... C'est vrai. On se croit tous super. Hein, des fois, je dis, ouais, c'est un peuple fier. Ouais, fier de quoi? Bon, je sais pas. Enfin, bon, voilà, c'est un peuple fier. on est tous très bien fiers de notre personne. C'est normal. Mais on n'est rien, mes frères et sœurs, rien du tout à comparer de ce que nous serons quand nous serons manifestés. Jésus dit, hein, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous le sommes déjà, mais ça n'a pas encore été manifesté. C'est dans la limite, c'est coincé dans ce bout de viande qui est notre corps. Je me rappelle, Renaud, il n'aimait pas quand je disais mais la boule de viande et tout ça, il n'aimait pas. Frères et sœurs, réjouissez-vous qu'un jour vous quitterez ce monde. Réjouissez-vous que vous quitterez ce monde limité qui est en ce moment sous l'emprise du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Mais frères et sœurs, vous êtes plus que vos muscles. Vous êtes plus que votre jolie tête. Vous êtes plus que votre peau. Vous n'êtes pas votre compte en banque. Vous n'êtes pas votre réputation. Vous êtes beaucoup plus que tout ça. Vous êtes un être spirituel, illimité, limité momentanément. Un esprit, un champ d'énergie qui évolue dans un champ d'énergie infiniment plus vaste que vos yeux de chair ne peuvent absolument pas voir. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Si on voit Dieu et qu'on vit, on explose. Peut-être pas si mal d'exploser finalement, comme disait l'autre. peut-être pas si mal d'exploser, comme disait l'autre. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire, elle n'a peut-être pas compris. Hein? Paul disait, la mort m'est un gain. Ouh là là, si les journalistes m'écoutent, ils vont dire, ils vont se suicider là-bas dans la secte. Pas du tout, pas du tout. Paul disait, la mort m'est un gain, c'est pas parce qu'il était dépressif. Il n'était pas sous Temesta, il mélangeait pas ça avec un peu d'alcool pour, n'est-ce pas, avoir des expériences spirituelles. Il n'était pas dépressif. Il était conscient de la réalité, c'est-à-dire d'être cerné par le crétinisme aigu ambiant, par l'imbécilité et la méchanceté, mais ce n'est pas ça qui faisait qu'il disait « la mort m'est un gain », pas du tout. Paul aimait la vie. « Vivre que c'est bon, vivre que c'est bon, le soleil, la lune, ma pauvre vivre, c'est merveilleux de vivre. C'est merveilleux, c'est magnifique, non, c'est magnifique de vivre. Mais !» Nous avons une expérience glorieuse, passer de l'autre bord. Le jour où Dieu le voudra, c'est lui qui décide, passer de l'autre bord. Il nous prendra et bye bye la terre, bye bye la terre. Ce pauvre monde. Jésus le promet, nous ne mourrons jamais. Comme le rit un Campbell's qui colle, jamais. Vous ne mourrez jamais. Par contre, ceux qui rejettent la lumière, ça veut dire quoi rejeter la lumière?
Ça veut dire rejeter Jésus.
Mais bien sûr, ça veut dire rejeter Jésus, puisque Jésus est la lumière. Mais il n'est pas que la lumière, il est aussi le chemin, la vérité, la vie, hein, et beaucoup d'autres choses encore. Regardez, lisez votre Bible. Paillon, le gitan qui m'instruisait dans la première école biblique que j'ai faite, il disait, « Lis ta Bible, il a bien. » Je ne sais pas s'il fait toujours ça, mais c'était un tic, il avait. C'était rigolo. Lis ta Bible et lis-la bien. Ceux qui rejettent la lumière, c'est-à-dire ceux qui rejettent la bonté, ceux qui rejettent la gentillesse, ceux qui rejettent l'amour, ceux qui rejettent l'authenticité, ceux qui rejettent la noblesse, ceux qui rejettent la beauté, ceux qui rejettent les valeurs morales, ceux qui aiment le mal, c'est-à-dire ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ça ne veut pas dire que le mal, que le plaisir, c'est mal. Mais sans Dieu... Ils sortiront de leur corps et ils vont sombrer dans un trou noir. Attention, attachez vos ceintures, c'est plus de la doctrine. C'est pas du tout de la doctrine. Ils vont sombrer dans un trou noir. Vous connaissez, il y a des trous noirs dans l'espace. Ça aspire tout. Ça ne rend rien, c'est fini après. Même des planètes entières rentrent là-dedans. Et c'est terminé. Ça aspirera toutes leurs espérances, leur joie, tout ça, c'est comme, vous savez, les détraqueurs. Les chrétiens évangéliques ne peuvent pas comprendre ce que je dis là. À moins qu'ils regardent la télé en cachette, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Ils mourront, c'est-à-dire, ils auront conscience qu'ils ont manqué la vie. Sur terre, ils auront abandonné leur héritage. Ils auront endurci leur cœur. Alors, en sortant de leur corps, ils se cogneront contre de l'énergie de ténèbres. Parce que ça existe aussi l'énergie de ténèbres. S'il y a la lumière, c'est qu'elle est ténèbres. Ils se heurteront contre des murs de ténèbres. Voilà pourquoi ils pleureront. Voilà pourquoi il y aura des grincements de dents, des amers regrets, du désespoir, de l'horreur. Soir, on a vu un film d'horreur épouvantable. Je disais à Michou, vraiment, il faut se décontracter. Il peut arriver n'importe quoi. C'est complètement idiot. C'est n'importe quoi peut arriver. Donc, décontractons-nous et puis voilà. Eh bien, l'enfer, c'est un peu ça. N'importe quoi peut arriver. Mais rien de beau, rien de noble, rien de gentil, que des ténèbres. Ça sera leur lot. Non pas parce que Dieu les punit. Non, mais parce qu'ils auront choisi sur terre les ténèbres plutôt que la lumière. Oh, la Bible. Ils peuvent prendre la Bible. De la Bible. Ils font un bouquin de loi. Ils font un bouquin de loi. La Bible dit que c'est par la loi qu'on connaît le péché et le péché nous mène à la mort. Donc la Bible, pour eux, c'est un bouquin de mort. Jésus l'a dit. Il a dit, pour certains, je suis une odeur de vie. Pour d'autres, je suis une odeur de mort. Voilà. Et voilà, oh, ils ont toujours leur gros nez fourré dans la Bible, mais ils font de la Bible un bouquin de mort. Terrible, n'est-ce pas? Terrible, n'est-ce pas? Dieu nous a créés à son image. Ils ont défiguré Dieu. Ils se sont fait un Dieu à leur image. Monstrueux de bêtises. Malhabiles comme pas possible. Obtus. Tourmentés. Un Dieu qui se ronge les ongles en se demandant « Oh là là, c'est terrible quand même. Oh, si j'aurais su, j'aurais pas créé le monde. Oh, mais comment je vais me débrouiller maintenant? Oh là là, tous ces démons. Oh là là, là 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 là, puis tous ces gens qui me prient, puis je sais pas à qui répondre. Oh, c'est terrible. Oh. » Et puis un Dieu qui peut pas prier parce qu'il y a personne au-dessus de lui. Alors, il peut pas dire « Mon Dieu, bénis-moi, Seigneur. » Il écrit vers l'homme « Oh, mes serviteurs, allez prêcher l'évangile. » Et puis « Hein, quoi que vous ayez ?» Un Dieu tourmenté, un Dieu qui est tourmenté, qui donc tourmente les autres, se vengeant, punissant, attendant les pécheurs à l'église tous les dimanches pour mieux leur taper dessus par l'intermédiaire des bons pasteurs et des bons curés, n'est-ce pas, condamnant les adolescents pour une simple branlette. Voilà, un Dieu merveilleux, un Dieu mesquin, cruel, qui est tout puissant mais qui n'en fout pas une. Ils ne voient pas Dieu dans toute leur voie. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui agit. Ils ne voient pas que le but, c'est l'amour, que c'est la beauté. Que c'est... Ils ne voient pas ça. Ils sont dans les ténèbres. Un Dieu qui accuse les gens sans cause. Quelque chose qui va bien? On va te mettre un problème pour te saper ta joie. Un Dieu qui soupçonne le mal. Vous voyez, en fait, ils se sont fait un Dieu à leur image. Voilà, comme eux. Il est leur Dieu, il est comme eux. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas eux-mêmes, ils n'aiment pas Dieu non plus, et ils pensent que Dieu ne les aime pas. Oh, ils ne vous diront pas, je pense que Dieu ne m'aime pas. Non, non, Dieu m'aime, oui. Ben, mon Dieu, si Dieu les aime comme ça, formidable. Hein? L'amertume, la l'arc, quelle horreur. Un Dieu vicieux qui se plaît à casser le rêve des gens tout le temps. Alors, à l'image de leur Dieu. À l'image de leur Dieu. Alors, ils auront vécu que pour emmerder le monde. Que pour emmerder le monde. Et vous croyez que ça va continuer après? Non. L'enfer, il est préparé. C'est un endroit qui est préparé pour eux. Et ils se retrouveront tous ensemble, puis continueront. Mais alors, sans limite. Sans limite. Vous voyez, maintenant, ils sont limités encore. Hein? Heureusement, merci Seigneur. Mais là, ils seront sans limite, mais ce sera un coin, hein, dans un coin, pendant un temps. Parce qu'un jour, la Bible dit qu'il ne se trouvera plus de place pour eux devant Dieu. Et comme Dieu remplit tout, il est partout, donc ça veut dire qu'un temps, un moment, terminé. Merci Seigneur. Alors, quand ils sortiront de leur corps, lorsqu'ils passeront l'arme à gauche, ils verront ce trou noir qui les aspirera, les ténèbres, la puissance énergie, d'énergie de ténèbres. Et alors, là, dans les ténèbres, ils lèveront leurs yeux en disant « Ah, je me rappelle ce petit cantique, lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours ?» Trop tard, fini. Qu'est-ce qu'ils verront de Dieu? Une grosse main qui descendra dans le trou noir, et tout à coup une chaîne en or qui apparaîtra, et la main prendra cette chaîne et tirera la chasse d'eau. Évacuez le mal! Sous toutes ses formes, on tire la chasse d'eau. Vous voyez, je vous ai dit que ce n'est pas une doctrine. Hein? Qu'aucune place ne soit trouvée pour cela devant la face de mon Dieu merveilleux. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'ils auront aimé les ténèbres. Parce qu'ils auront aimé les plaisirs plus que Dieu. Parce qu'ils se seront foutus des serviteurs de Dieu. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle, a dit Jésus. C'est-à-dire, les autres auront le contraire. Celui qui croit. Mais alors, c'est quoi croire? Ben, c'est plus que de croire dans l'existence de Jésus. Croire, c'est croire ce qu'il a dit au point de faire ce qu'il a dit. Croire en Jésus, c'est croire ce qu'il a dit au point de faire sa volonté. Mes frères et sœurs, Dieu appelle encore aujourd'hui à la repentance. Et si quelqu'un m'entend et se sent un petit peu du mauvais côté de la barrière, déjà assis sur un trône, prêt à disparaître dans le trou, repentez-vous. C'est encore possible. Mais mes frères et sœurs, il y en a qui n'entendront jamais cet appel sur la terre. Il y en a sur la terre qui n'ont jamais entendu cet appel. Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu ne prêchent plus la parole de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne prêchent plus la bonne nouvelle. 40 personnes toutes les 15 secondes qui passent dans l'au-delà, qui disparaissent dans les trous noirs. À qui est-ce que tu as donné la lumière aujourd'hui ? Alors, dans son amour, Dieu ne condamne pas ceux qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Là, c'est de la doctrine. Écoutez-moi bien. À ceux-là, l'évangile sera prêché dans le séjour des morts. Il est dit dans 1 Pierre 4:6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés quant à la chair, ils puissent vivre selon l'esprit. On ne vit qu'une fois, après quoi vient le jugement. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus passe par un jugement. Et il est dit, cette personne n'a jamais entendu parler de Jésus correctement, il est mis de côté. Et quelqu'un vient lui prêcher l'évangile. Jésus a ouvert le chemin, il l'a fait. Quand il est mort à la croix, pendant 3 jours, il est descendu dans le séjour des morts, il s'est occupé d'une certaine catégorie de personnes, ceux qui avaient vécu du temps de Noé, et il leur a prêché l'évangile. C'est écrit. L'évangile a aussi été prêché aux morts. Ça veut dire qu'il a été prêché aux vivants, à ceux qui sont sur la terre, et aux morts, à ceux qui sont dans le séjour des morts. C'est une doctrine qui n'est pas aimée dans les églises. Ils préfèrent condamner. Hein, voilà. Jésus ensuite est sorti, il est descendu dans les profondeurs de la terre, il est sorti de là en emmenant des captifs. Éphésiens 4, 7, 10. Les gens qui ont reçu l'évangile là-dedans, dans le séjour des morts, il les a emmenés avec lui. Captifs. Il a emmené ses captifs avec lui dans les lieux célestes, dans le paradis. Des milliers de pauvres gens ayant vécu sur cette planète n'ont jamais entendu parler correctement de Jésus-Christ pendant tous ces siècles. Ben, je vais en prendre qu'un. Mon papa, mon père. Il n'a jamais entendu quelqu'un parler de l'amour de Jésus-Christ. Mon papa, personne n'est venu lui dire qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix ? Jamais. Et puis à 49 ans, ben il est mort. Et vous savez, moi j'étais jeune, et j'avais quelques notions de la Bible, puisque j'avais fait mon catéchisme protestant, alors j'avais lu « Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, avec mes 16 ans, j'avais 15 ans à peu près, 15 ans et demi, j'étais vers ma mère, je dis « Mais tu sais, papa, il est perdu d'après la Bible. Il est en enfer puisqu'il ne croyait pas. » Ma mère s'est mise à pleurer, à m'insulter, à hurler, à crier, elle qui était déjà en dépression. Mais c'était logique ce que je disais, c'est ce que les religieux disent. Ils prennent ce verset, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas, sera condamné. Point. Ils ne prennent pas tout le reste. Un jour, j'ai appris la vérité. Et j'ai rétabli la vérité. J'ai dit, non, maman. Il n'est pas forcément perdu. Il est allé dans le séjour des morts du côté de ceux qui ont été jugés et qui ont été reconnus pour n'avoir jamais entendu la parole de Dieu. Et quelqu'un est allé là et a prêché la parole de Dieu. Jésus a ouvert le chemin. Il a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez de même. Il est le roi des rois, le roi dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est le maître là, il fait ce qu'il veut. Même si vous les évangéliques, vous ne le voulez pas, c'est quand même comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Que ça se passe. Alors les religieux envoient mon papa en enfer, sous prétexte qu'il n'avait pas reçu Jésus de son vivant. Je pose la question, à qui la faute qu'il n'avait pas entendu parler de Jésus de son vivant ? Eh bien, la faute se trouve chez ceux qui n'ont pas prêché à mon père. À un monsieur, par exemple, qui s'appelait Rigenberg, qui était un chrétien évangélique. C'était un bon copain à mon père, il n'a jamais témoigné de Jésus, jamais. Il vient à la maison, jamais, un jour, il nous a parlé d'une expérience qu'il avait faite à l'église. Il nous a dit, ma femme, elle m'a fait sortir de l'église évangélique parce qu'elle en avait marre, je donne la dîme. Monsieur Rigenberg, sa fille s'appelle Elisabeth, peut-être elle vit encore, peut-être qu'elle m'entend. Ben, ils n'ont jamais témoigné à mon père. À qui la faute s'il n'a jamais entendu parler de Jésus ? pas à mon Père. Aux chrétiens qui ne témoignent pas, qui ne prêchent pas, mes frères et sœurs, attention. Ils n'ont pas pris le temps de lui parler gentiment de l'amour de Jésus. Voilà où est la faute. Mon père, il a été placé quand il avait 4 ans, il était placé dans une famille. Il y avait des problèmes dans sa propre famille avec le père et la mère. C'est donc mon père, à l'âge de 4 ans, a été placé dans une famille. Dans cette famille, il y avait une maman qui était là, avec ses propres enfants. Et cette maman était une femme très effacée. Elle ne disait jamais rien. Elle avait toujours le visage un peu baissé comme ça, et puis elle ne disait rien. Le monsieur, c'était le pasteur du village en Suisse. Le pasteur du village qui, après avoir prêché dans son église, se saoulait la gueule copieusement, battait sa femme et ses enfants et mon papa. Voilà ce que mon papa a vu des serviteurs de Dieu. Pas de chance. Ben je vous le dis, quand il est mort, il n'a pas vu le trou noir. Il n'a pas vu la main avec la chaîne. Il n'a pas vu ça. Mon papa, il a vu la lumière. Mon papa, il était enseigné dans le séjour des morts. Il a pu choisir de suivre ou non la lumière. Jésus, notre Dieu. Pensez-y. Mais pensez-y. Pensez à l'amour infini de Dieu. Rappelez-vous, sur la croix, la première personne qui a été sauvée, c'est un brigand. Un assassin, on condamnait les assassins, les brigands, les graves de graves. Premier chrétien, première personne sauvée, un brigand. Et les deuxièmes de qui Jésus s'est occupé, c'est les morts. Il est descendu là dans le séjour des morts et il a prêché, nous dit l'apôtre Pierre. Les chrétiens disent, non, il a prêché, il n'a pas dit ce qu'il a prêché. Si, c'est dit ce qu'il a prêché, c'est dit quelques versets plus loin. L'évangile a aussi été prêché aux morts. L'évangile, la bonne nouvelle, pourquoi? Pour qu'ils puissent recevoir la bonne nouvelle. Et il a emmené les captifs avec lui, après avoir été dans ces régions inférieures de la terre. Il a emmené avec lui des gens qui étaient captifs. Il les a emmenés avec lui au paradis. Mais pourquoi ils ne veulent pas voir ça? Chaque enfant de Dieu qui meurt va, comme Jésus l'a fait, prêcher dans le séjour des morts et faire sortir des captifs. Tout ce que Jésus a fait, nous le faisons aussi. Voilà pourquoi nous devons parler de lui, prier pour les malades, témoigner sans arrêt, chaque jour, tout le temps, insister, toutes les occasions, favorable ou non. J'aime ça. J'aime ce Dieu d'amour infini qui premièrement s'occupe des assassins, des mauvais, des méchants, de ceux qu'on rejette, qu'on crucifie, et puis ensuite des morts. Et puis après, voilà, il a envoyé les apôtres pour maintenant prêcher sur la terre des vivants. Faites-le. Et vous, là, tous ceux à qui vous prêchez, ben, s'ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'eux, ils auront entendu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. J'aime ça. Dieu ne force personne, mais tous peuvent vraiment le recevoir et avoir la vie éternelle. Alors, mes frères et sœurs, ceux qui n'aiment pas ce que je viens de dire, ils aiment plus leur religion que Dieu. Ceux qui n'aiment pas ce que je viens de dire, ils n'aiment pas l'amour. Oh, petit papa, petite maman, dont le fils est mort drogué, tu as de l'espoir. Oh, petit papa, petite maman, toi qui as un fils mort dans un accident, tu as encore de l'espoir. Ne prie pas pour ton mort, ça ne sert à rien. Quelqu'un s'est occupé de lui dans le royaume, dans le séjour des morts, afin qu'il puisse entendre l'évangile. Oh, toi, qui t'es converti et tu penses à ton père, ta mère, ton frère, qui eux sont morts sans connaître, il y a de l'espoir. L'évangile est aussi annoncé aux morts, après, afin qu'après avoir été jugés, parce qu'on ne vit qu'une fois après qu'on est jugé, après avoir été jugés, ils puissent entendre encore et vivre. 1 Pierre 4, 6. Ceux qui n'aiment pas ce que je dis là, aiment un Dieu cruel, dégueulasse, méchant, injuste. La religion, elle est source de malheur, elle est source de guerre, elle est source de chicane. Il faut sortir de ça. Sortez de ça. Sortez de ça. C'est les ténèbres. C'est de l'énergie à basse fréquence. Marchez à la lumière. Qu'est-ce que c'est marcher à la lumière? Marchez à la lumière de ce que la Bible dit. Ça veut dire ne faites pas ce que vous voulez, vous, ce qui vous semble bien. Vous, on s'en fout de vous. C'est marcher à la lumière de Dieu. De Dieu. Ainsi, vous serez des frères et sœurs, des fils, des filles dignes de votre Père qui qui est la lumière du monde.
Ah bon, c'est une hérésie?
Ah bon, c'est une hérésie. Alors je vous en prie, ne prenez même pas la peine de m'écrire. Laissez-moi dans mon hérésie. Allez sauter, allez vous rouler par terre dans vos églises, allez chanter vos cantiques. Mais je vous le dis en vérité, Dieu dirige sur vous sa zapette et il coupe le son. Il aime les actes d'amour, les paroles, les chants, le bruit, taper dans les mains, tout ça. Oui, ça l'amuse un moment. Ça l'amusait surtout dans les années 30, quand il y a eu le réveil pentecôtiste. C'était génial, c'était nouveau, c'était super, c'était bien, c'était des enfants spirituels, voilà, c'était formidable. Mais maintenant, oh, il en a assez. Il veut des actions de foi, des actions concrètes, des actions d'amour, des gens qui se donnent pour le salut des autres. 40 chaque seconde passe dans l'éternité. 40 personnes chaque 15 secondes. Il veut des gens qui soient fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Il veut des gens qui soient fidèles, des gens qui fassent le bien, c'est-à-dire qu'ils fassent ce qu'il veut lui, parce que lui seul sait ce qui est bien. C'est ça, être un fidèle. La mort m'est un gain. Jésus est la vie, mais il est aussi le chemin. Marchez sur le chemin, non pas sur vos idées, sur le chemin qu'il a. Il est sur le chemin que nous pouvons voir. Il est la vérité. Je vous l'ai dite. Faites-la. Amen. Merci Seigneur Jésus de ce message que tu m'inspires encore ce matin pour donner non seulement ici, parce qu'ici les frères et sœurs sont tous au courant, mais pour donner aussi à l'extérieur, pour qu'ils sachent, pour qu'ils connaissent que dans l'Église primitive, on croyait des choses bien plus merveilleuses que ce qui est cru aujourd'hui dans nos petites croyances, nos petits dogmes bien étriqués et cruels qui font de la peine. Merci Seigneur de nous aider, de nous consoler et de nous donner ta paix par ta parole, par ton esprit. Parce que tu cherches des adorateurs en esprit, en vérité. La vérité, c'est ta parole. Nous sommes dans la paix, nous sommes des adorateurs quand nous sommes fidèles à la parole, en esprit, dans l'esprit de la parole. Et non pas simplement dans les dogmes étriqués, méchants, cruels, légalistes. Aide-nous à sortir de là. Aide-moi à faire sortir des gens qui sont captifs de ces lois, de ces choses idiotes, méchantes et cruelles. Aide-moi, Seigneur, donne-moi encore la force jusqu'à la fin pour pouvoir conduire ceux qui veulent, qui aiment ce qui est authentique, ce qui est beau, l'amour, la gentillesse, la bonté, la beauté. Aide-moi alors à les toucher, à les rencontrer et à leur montrer la vérité, le chemin et la vie. Amen et Amen.